Radio G, 101.5 FM.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Les gens qui rêvent au paradis perdu, malheureusement, faut qu'ils en fassent leur deuil, quoi. Le paradis, il est perdu. L'eau, c'est un milieu de vie. Et donc, c'est la vie qui elle-même nous garantit l'eau potable. Il y a des êtres vivants autres qu'humains qui nous aident à avoir de l'eau potable, à avoir de l'oxygène pour respirer, puisqu'on a besoin d'eux pour survivre, nous, à long terme. L'eau, il faut que nous, humains, on soit plus précautionneux par rapport à cette ressource en eau, qu'on soit plus économe, qu'on soit beaucoup plus parcimonieux sur son usage, pour que les autres êtres vivants qui en ont besoin puissent continuer à survivre pour nous rendre les biens et services dont on a besoin. L'homme croit toujours qu'il peut être au-dessus de la nature et la dominer alors qu'il n'en est qu'un élément qu'il faut composer avec elle, composer avec la nature.
Composer et travailler avec la nature plutôt que de chercher à la dominer. Vaste programme, s'il n'est pas déjà trop tard. Avec ces pénuries d'eau douce, ces incendies et autres catastrophes, l'épouvantable été caniculaire 2022 nous a concrètement fait basculer dans une époque où l'expression « réchauffement climatique » n'est plus seulement qu'un sujet médiatique parmi d'autres. Salut les amis, c'est JBD, c'est La Voix Off. Seconde partie de cette conversation avec Philippe Boineau, qui est notamment scientifique, spécialiste de l'eau et des poissons, pêcheur professionnel de Loire, et l'un des 190 membres du comité de bassin Loire-Bretagne. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Pour protéger ce qu'on appelle un peu rapidement la nature, au cours d'un premier entretien avec toi, Philippe, nous avons notamment évoqué la possibilité de doter un milieu naturel d'une personnalité morale, pourquoi pas juridique, idée défendue par le Parlement de Loire. Est-ce une piste pour prendre conscience que sans le vivant non humain, l'être humain est tout simplement destiné à disparaître ? Aujourd'hui, avec toi, Philippe, on continue à parler de cette eau douce et en principe potable, et qui commence à manquer depuis plusieurs étés. Le catastrophique été 2022 annonçant les étés du futur. Outre la pénurie d'eau douce, on évoquera aussi sa qualité. Or, l'eau douce est supposée potable et bourrée de poisons issus de l'industrie, notamment agroalimentaire. Industrie agroalimentaire à qui l'on doit aussi les criminelles méga-bassines, bassin de stockage d'eau pompé dans des nappes phréatiques déficitaires dès le printemps. L'eau, un bien commun et vital, privatisé par l'industrie, notamment pour arroser du maïs. Au secours.
Et vous savez ce qui va se passer?
Campagne présidentielle de 1974.
Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau.
René Dumont, tout premier candidat écologiste de l'histoire de France, apparaît à la télévision avec un verre d'eau à la main.
Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. À lundi, je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci, mes amis.
Évidemment, à l'époque, à peu près tout le monde s'est foutu de sa gueule. Ce que vous entendez là, c'est la musique aquatique d'un petit affluent de la rivière l'Allier, qui est lui-même un affluent de la Loire. Son que j'ai eu la chance de pouvoir enregistrer en Haute-Loire en cet été 2022, quand un peu partout en France, nombre de cours d'eau et autres lacs se sont retrouvés à sec. Mais avant qu'on se lance, on va aborder avec Philippe une généralité qui vous semblera sûrement évidente. Mais sur notre planète, il y a toujours la même quantité d'eau. Ni plus, ni moins. Il ne se crée pas d'eau. C'est juste, comme vous le savez, qu'H2O peut changer de forme. L'eau peut être liquide, sous forme de gaz ou de glace. L'eau de la planète est, pour l'essentiel, salée. Très peu d'eau douce. Plus ou moins polluée, Philippe.
Oui, a priori, toujours la même quantité. Qu'elle soit sous forme solide, liquide ou gazeuse, hein, les trois états. Et puis qu'elle soit salée ou pas salée, ou douce. Justement, les humains et pas mal d'espèces vivantes sur la planète ont besoin d'une eau sous forme liquide et douce. Le problème, c'est que l'eau liquide et douce, ça représente une toute petite fraction de l'eau disponible sur la planète. C'est ridicule par rapport à la masse d'eau. La plus grande majorité, elle est salée, liquide et salée. Après, elle est gazeuse dans les nuages, dans l'atmosphère. Et puis après, elle est solide sous forme des glaces au pôle, au Groenland et sur les hautes montagnes. Enfin, pour celles qui ne sont pas encore en train de fondre de manière accélérée, parce que ça, c'est une fraction, l'eau solide qui va probablement, au cours des décennies qui viennent, se réduire comme peau de chagrin.
Nous, sapiens, on est aussi constitués de pas mal d'eau. Est-ce qu'on peut aussi dire que l'eau, elle est dans le nuage, elle est dans la rivière, mais elle coule aussi dans notre organisme sous forme de fluides divers, de sang et compagnie?
On est constitué à 80% d'eau et qu'on doit renouveler régulièrement. Pour renouveler cette eau dans nos organismes, c'est de l'eau douce, liquide, dont on a besoin. Donc, notre vie n'est possible que si on a de l'eau douce, liquide, en quantité suffisante pour pouvoir survivre. Et donc, cette possibilité d'une ressource, c'est vivant en tant que ressource, n'est possible que si la nature peut nous la mettre à disposition de cette manière-là. Et pour que la nature puisse nous la mettre à disposition de cette manière-là, il faut qu'on ait des nappes phréatiques, c'est-à-dire l'eau qui rentre dans le sous-sol, qui reste de qualité, pas trop polluée par les pesticides et les nitrates, en quantité suffisante. Et dans les cours d'eau, de la même manière. Et pour que dans les cours d'eau, l'eau soit disponible pour nous humains, le meilleur moyen de le garantir, c'est que ces cours d'eau soient en bon état écologique. C'est-à-dire que c'est un fonctionnement le plus naturel possible. Et donc, sur le bassin Loire-Bretagne, ici, il y a quelques critères qui fassent qu'on n'est pas en bon état, que les masses d'eau, les cours d'eau sont pas en bon état du tout. C'est en premier lieu ce qu'on appelle l'hydromorphologie. C'est-à-dire que le fait que les cours d'eau, ils étaient, justement, après la guerre, la révolution agricole, on a recalibré, rectifié des dizaines de milliers de kilomètres de chevelus de ruisseaux et de petites rivières. Au lieu de serpenter dans un fond de vallée humide, fond de vallée, zone humide, tourbière, qui a un rôle d'éponge, en fait, quand il pleut, ces milieux, ils stockent l'eau, et puis quand il pleut plus, ça la restitue. Et ça fait un soutien d'étiage naturel. De même que les réseaux de talus de haies retenaient l'eau qui rentrait dans le sol, donc les sols restaient humides beaucoup plus longtemps, et rechargeaient mieux les nappes phréatiques. Le fait qu'il y ait eu le remembrement dans les fameuses 30 glorieuses, que moi j'aurais plutôt tendance à appeler les 30 calamiteuses, c'est-à-dire on arrachait les talus de haies pour permettre transformer des petits champs en très grandes champs ouverts, open field en anglais, hein, avec des très gros tracteurs, des très grosses machines pour industrialiser l'agriculture. Et en même temps, on a drainé les fonds de vallée, et pour ça, on a rectifié, recalibré les cours d'eau pour qu'ils deviennent des canaux d'évacuation des eaux. Donc on a tout fait pour accélérer le rythme d'évacuation de l'eau des zones cultivées. On a absolument tout fait. Et 30-40 ans plus tard, on s'aperçoit qu'on a trop accéléré le rythme d'écoulement de l'eau. Parce que maintenant, dès qu'il pleut, souvent il y a des crues, il y a des éboulements, il y a des choses comme ça. Et ce sont des élus qui souvent ont financé les drainages, leur calibrage, leur membrement, qui sont surpris de voir l'eau arriver tout le temps sur la place devant leur mairie. Bah oui, mais c'est eux qui l'ont facilité, cet accélérément l'écoulement. Et mes collègues pêcheurs en Bassois m'ont dit, les crues qui, au foie, arrivaient de manière lente, et c'était des montées d'eau très lentes et très soutenues, ça durait des semaines, et ça va. Maintenant, on a de l'eau basse. Tout d'un coup, il y a un pic de crue très violente, ça dure 2-3 jours, et puis c'est fini. Voilà. Plutôt d'avoir des ondes de crue lentes et régulières, on a des passages d'eau violents quand il pleut. Donc ça accélère le rythme de l'eau, on l'a voulu, pour industrialiser l'agriculture, et puis maintenant on en paye les conséquences. Donc les idées qui ont été dégagées au cours des Assises de l'eau, c'était une réunion pour réfléchir à comment mieux gérer l'eau de manière quantitative. Certes, il y a des réservoirs artificiels, comme les bassines ou les barrages, mais il y a peut-être d'autres façons. Et tout ce que ces Assises de l'eau ont dit, c'est qu'il fallait déjà d'abord économiser l'eau, réduire la consommation nette de 5% dans les 5 ans et de 20% dans les 15 ans, 25% dans les 15 ans. Autant dire qu'on en est loin. C'était en 2019, on n'a pas commencé le début. Et qu'il fallait se fonder sur les solutions basées sur la nature. C'est recréer des réseaux de tailles de haies pour permettre que l'eau ne ruisselle pas brutalement, mais au contraire humidifie bien les sols et rentre bien dans le sous-sol pour alimenter les nappes phréatiques, pour mieux recharger les nappes phréatiques. Reméandrer les cours d'eau, c'est un cours d'eau qui va tout droit, recréer ses méandres pour ralentir son cours et faire qu'il ait des habitats plus diversifiés, qu'il ait une meilleure capacité d'eau et plutôt épuration pour mieux épurer l'eau, puis en même temps qu'il rejoue son rôle d'éponge. Les fonds de vallée rejouent mieux leur rôle d'éponge pour stocker l'eau quand il pleut et puis la restituer quand il fait sec. Ça, ce sont des solutions basées sur la nature, mais qui sont confrontées au fait que l'agriculture conventionnelle a refusé ces décisions collectives, pourtant, où ils étaient associés, en demandant la réunion d'un Varenne agricole de l'eau et du changement climatique. Bon, ils ont gardé un peu de ces solutions, mais remettre en avant la nécessité de stocker l'eau quand il y en a trop. Alors, l'eau, quand il y en a trop, il n'y a jamais trop d'eau, puisque, en fait, on n'a plus assez d'eau douce arrivée dans les estuaires pour permettre la reproduction ou la vie de la plupart des espèces marines, y compris d'intérêt économique, comme le bar, les huîtres ou les maigres, ou les sols ou les crevettes, qui sont des biens et services que nous rend la nature en bon état. L'hiver dernier, il n'y a pas eu du tout assez d'eau douce arrivée dans nos estuaires, pas du tout. Donc, je ne sais pas, on aurait pu trouver de l'eau en trop pour pouvoir la stocker dans des réservoirs.
Rappeler une évidence, le cycle de l'eau, c'est une chaîne constituée de plusieurs maillons, la nappe phréatique, la rivière, le fleuve, l'estuaire, l'océan, le nuage qui refait pleuvoir par exemple sur le mont Gerbier de Jonc. Donc il y a des précipitations qui vont directement dans la rivière mais qui vont infiltrer la nappe, etc. Or, si on casse un maillon de la chaîne, je pense par exemple à nos histoires de méga-bassines, ces pompes qui vont pomper directement dans les nappes phréatiques déjà déficitaires dès le printemps ou de la rivière, pour stocker une eau qui va se saloper et croupir et s'évaporer dans des bassins de rétention horribles d'ailleurs. C'est grand comme plusieurs terrains de football et c'est de la bâche en fait. On y stocke de l'eau qui croupit pour arroser du maïs souvent destiné à nourrir des bestiaux. Maïs qui n'est pas une plante adaptée à nos tropiques, comme on l'évoquait l'autre fois. Enfin bon, bref, l'eau, elle n'est pas juste ponctuellement présente ou au robinet ou dans la rivière. Tout ça, c'est une chaîne, c'est un cycle.
Oui, on est tous interdépendants. Oui. C'est clair que c'est une ressource unique et tous les humains sur un même bassin hydrographique sont dépendants de ce que vont faire les uns les autres de cette ressource unique.
Comme on est tous interdépendants, les actions, par exemple, d'une commune ou d'une municipalité en amont concernent bien évidemment la ville en aval.
Tout à fait. Alors, c'est là où commence à avoir des conflits territoriaux, dans la mesure où des communes de l'amont commencent à dire « Y en a marre, c'est à nous qu'on nous demande de faire des efforts, qu'on nous demande de nous priver de développement économique en faisant l'industrie, développant l'agriculture et autres, pour que l'eau reste disponible pour l'aval. » Et c'est Laval qui a les retombées sociales, économiques de l'eau qu'on leur fournit, alors que nous, on en est privé.
On peut imaginer un politicien qui fait campagne, qui veut dire, voilà, chers contribuables, on va dépenser beaucoup d'argent pour un bled qui est 300 km en aval de chez nous. Électoralement, c'est pas hyper porteur.
Moi, je suis pas du tout spécialiste de la fiscalité, mais c'est quelque chose que j'ai entendu, hein. C'est qu'il y a vraiment un problème de répartition de la fiscalité. Quand une commune ou une Comcom ou décide de développer une zone industrielle ou développer tel ou tel type de d'activité agricole ou industrielle consommatrice d'eau sur son territoire, il va en avoir des retombées fiscales, donc des retombées économiques. Et les territoires en amont, eux, on va leur interdire de voir ce type de développement parce qu'il y a besoin de l'eau en aval justement pour soutenir les activités économiques. Or, ils n'ont aucune retombée fiscale de cet effort qu'ils font, puisque ce sont les communes qui développent leurs activités consommatrices d'eau qui vont en bénéficier. Donc, quelque part, il y a une injustice fiscale. Comme je vous dis, je ne suis pas fiscaliste, hein, je ne suis pas élu, mais j'ai bien entendu ce souci. Tant que ce ne sera pas résolu, ça va faire qu'on va avoir des représentants, par exemple, des communes de montagne qui soient de plus en plus réticents pour accepter la solidarité, parce qu'ils considèrent que c'est une solidarité à Mont-Aval qui va à sens unique. L'amont qui doit se restreindre pour que Laval ait de l'eau en quantité et en qualité, alors que eux, on leur interdit le développement qu'ils permettent de procurer aux communes de Laval. Donc il y a un souci d'équité en fait et de traitement entre humains répartis le long des bassins versants. Mais qu'il y a des mécanismes fiscaux humains, ça c'est aux hommes politiques de régler ces problèmes-là entre eux, normalement. Mais j'ai pas l'impression qu'ils en discutent beaucoup. C'est une autre dimension du problème et qui fait que ça ne facilite pas le dialogue. Et par exemple, on a un certain nombre d'élus du Massif central qui rédigent sur position en disant les barrages, vous les avez fait chez nous, les sacrifices, vous nous demandez à nous de les faire. Maintenant, il ne pleut plus assez sur le Massif central, nos activités déjà locales sont remises en cause. Donc, l'eau qui était contenue dans les barrages que vous avez construits chez nous, on va la garder pour nous. Et à Laval, à Orléans, à centrale nucléaire ou pas, c'est plus notre problème. L'eau, on va se garder pour nous. On va se refaire d'autres barrages. Et puis, vous vous débrouillez comme vous pourrez. Ça, c'est les effets de durcissement des conditions économiques et du dérèglement climatique. Ce qui ne facilite pas la décision pour un consensus, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour gérer l'eau. Qui n'est toujours vue sous ce prisme que d'une ressource. Alors après, parler de saumon dans ces conditions, ou d'anguilles, ou de... Là, on passe pour des exotiques totaux, quoi.
Philippe, ouvrons dans cette conversation une autre boîte de Pandore. On vient d'évoquer rapidement la quantité d'eau. Hein. On rappelle qu'au moment de cet entretien, automne 2022, où on sort de cette série de canicules et de sécheresses de cet été épouvantable 2022, qui semble hélas bien annoncer les étés du futur. Depuis le temps qu'on nous parle de réchauffement climatique... J'ai un demi-siècle passé, je crois avoir grandi avec Hubert Reeves me racontant dans mon enfance qu'on allait dans le mur. Il me semble que ça fait un moment qu'Hubert Reeves dit qu'on est dans le mur, qu'on nous parle de réchauffement climatique. Bon bah là, au vu de ce qu'on a vécu pendant cet été 2022, c'est plus seulement que de la parlotte dans les médias. On a vu concrètement ce que ça pouvait être. Donc on a évoqué la quantité de l'eau, il y a aussi sa qualité. C'est que cette eau, elle est pleine de saloperies, de machins qui se terminent en cide, parfois en zat. Donc c'est déjà bien beau qui en est, mais alors, quelle eau? Quelle eau et avec quoi dedans?
Il y a une relation directe entre la quantité d'eau disponible, enfin qui coule dans nos rivières, et puis même qui subsiste dans les nappes phréatiques, et puis la qualité. Puisqu'en gros, les activités humaines, elles diminuent pas quand il y a moins d'eau. C'est-à-dire que nos rejets, ils sont toujours là. C'est-à-dire que même si les stations d'épuration sont de plus en plus performantes, les rejets résiduels, du coup, sont forcément plus concentrés, puisqu'il y a moins de dilution, avec un débit très faible, comme on l'a connu cette année, voire plus d'eau du tout dans des milliers de kilomètres de ruisseaux et d'affluents qui ont été totalement asséchés. Hein, totalement asséchés. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de dilution du tout. C'est la station d'épuration, c'est son rejet La qualité du rejet qui fait la qualité de l'eau de la rivière. Par exemple, en Bretagne, le bassin de la Vilaine, donc bassin de Rennes, Redon, qui fait à peu près un gros tiers de la surface de la Bretagne quand même, le débit d'Étiage, c'est-à-dire le débit à l'été qui reste dans la rivière, quand elle arrive à la mer au barrage Arzal, c'est juste la somme des rejets des stations d'épuration de Rennes et de Redon. Donc il intéresse que ces systèmes d'épuration soient performants. Bon, malgré tout, il reste forcément des traces de pollution. Bah sur le bassin de la Loire, moi où je travaille sur la Loire, effectivement, c'était cauchemardesque, puisqu'avec des débits très faibles et plus faibles qu'on ait connus en gros depuis 1949. Hein, la situation était pire qu'en 2003 ou qu'en 1976. Il y a alors les pollutions des stations d'épuration, des industries ou des communes qui sont toutes à peu près aux normes, à peu près performantes, mais bon, malgré tout, il y a quelques rejets. Bon. Mais il y a surtout la pollution diffuse agricole, donc tout ce qui circule de manière diffuse dans le sol, dans les nappes phréatiques, et qui finalement un jour ou l'autre va arriver dans les cours d'eau, qui sont alimentés par les sources ou les nappes phréatiques. Ben, ces pollutions diffuses, surtout en nitrates et en pesticides, sont quand même très importantes. Et dans la mesure où il y avait beaucoup moins de débit, forcément la concentration a été plus importante. Mais dans la Loire, le Cher, la Vienne, on a une modification de ce qu'on appelle l'eutrophisation. L'eutrophisation, c'est que le milieu est trop riche en éléments nutritifs. C'est azote et phosphore. Les phosphates, et autrefois les lessives, et puis beaucoup. Et puis les nitrates des champs, en gros. C'est le phosphate des villes et le nitrate des champs. Et les phosphores, c'est à peu près réglé. À part que le phosphore, c'est un aliment qui se stocke dans les sédiments des cours d'eau. Même s'il n'est pas le moteur de l'eutrophisation en mer, par exemple pour les marées vertes sur les côtes bretonnes, c'est les nitrates. En eau douce, il faut quand même un peu de phosphore pour provoquer la prolifération des algues. Mais il y a encore suffisamment de traces de phosphore dans les sédiments, qui sont brassés quand l'eau monte, effectivement, pour pouvoir, avec les excès de nitrates qu'on a, provoquer une gigantesque prolifération d'algues vertes. Donc en Loire, c'est méconnu, parce qu'il n'y a pas de marée basse, donc ça gêne personne. Ça gêne que nous, pêcheurs, parce que ça nous empêche de travailler. Hein. Quand vous posez un filet, puis qu'à quart d'heure d'après, il y a 300 kilos d'algues vertes dedans, ben, ça n'a rien pêché, puis vous avez 2 heures de karcher après pour nettoyer le matériel. Voilà, vous avez tout gagné. C'est-à-dire que le milieu est complètement, pas asphyxié, mais occupé par ces tapis d'algues vertes, l'été de la Loire, et maintenant de cyanobactéries. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ces proliférations maintenant? Parce que jusqu'en 2007, la Loire, c'était une soupe verte. La couleur de l'eau, c'était vert. Parce qu'il y avait excès de phytoplancton, c'est-à-dire du plancton sous forme de monocellules qui proliféraient sous les faits de l'abondance des nitrates. Mais à partir de 2008, l'eau est devenue claire dans la Loire. Au-dessous de 200 mètres cubes seconde, l'eau est claire. Parce que l'homme y introduit involontairement, on pense, un mollusque comme petite coque d'eau douce, rougeur du Mékong, donc Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande, Chine, qui atteint une telle densité qu'elle est capable de filtrer tout le débit de la Loire au-dessous de 200 mètres cubes seconde.
Ce petit mollusque-là, il s'appelle comment?
Corbicule. Les corbicules. Qui peut atteindre jusqu'à plusieurs centaines d'individus au mètre carré. Donc vous imaginez, sur 700 km de long, forcément la capacité de filtration est gigantesque. Donc on a de l'eau claire, tout le monde a crié en 2000. Oh, il n'y a plus de pollution, c'est fatigué. Non, c'est simplement que la pollution est masquée. Parce que le phytoplancton, dès qu'il se développe, il est filtré. Donc la lumière arrive jusqu'au fond. Mais ces petits mollusques, ça fait pipi. Donc ça relâche des nitrates. Et comme il y a de la lumière qui arrive sur le fond, qui a une grosse quantité de chaleur plus importante que le réchauffement climatique, que les nitrates sont là, mais ils ne sont pas longtemps dissous. Hein. Du coup, ils permettent un développement gigantesque des algues vertes. Ça fait comme des tapis de boules de coton qui se développent sur le fond de la Loire. Comme il y a du courant dans la Loire, bah, les tiges sont fragiles, ça se fragmente. Et quand vous mettez la tête sous l'eau dans la Loire, bah, on fait de l'apnée, Catherine et moi, on le voit bien, c'est comme s'il y avait de la neige verte. Il neige vert dans la Loire l'été. C'est pas un film d'horreur, c'est la réalité. Il neige vert dans la Loire en été, maintenant. Et donc ça bouleversait tout l'écosystème. Avant, les poissons étaient diffus dans la masse d'eau un peu partout. Maintenant, ils sont agrégés, ils sont agrégats. Dans des endroits, il y a des centaines de mètres, voire des hectares de Loire sans, il n'y a plus de poissons. Ils sont tous réfugiés dans des paquets. C'est pour être regroupés, pour mieux se défendre par rapport aux attaques, dans les tas de bois ou dans des groupes en plein eau, etc. Et puis surtout, En 2008, c'était constaté, il y a une forte baisse de la production. Le phytoplancton, c'est la base de la chaîne alimentaire. Phytoplancton, on a cassé la chaîne alimentaire, donc les invertébrés, les insectes aquatiques sont restés tout petits, sont pas développés. Les alevins de poissons, ils n'ont rien trouvé à manger, et donc il y a eu chute de l'abondance des poissons d'eau douce, entre 60 et 80% brutalement. Et puis depuis, l'écosystème s'en est jamais remis, parce que les corbicules, elles sont là. Celles qui sont en surface, elles peuvent mourir s'il fait trop froid l'hiver, mais comme il y a des stades plus jeunes enfouis dans le sédiment, ceux-là, ils survivent, et donc ils reprolifèrent très rapidement l'été suivant. Donc finalement, il faut qu'on fasse ça avec la corbicule, qui a réduit fortement la productivité de milieux aquatiques. Et à l'autre bout de la chaîne alimentaire, vous avez le silure, qui est aussi un animal introduit par l'homme, qui bouffe à peu près tous ceux qui ont réussi à se développer. Donc du coup, ça a un effet de cisaillement sur nos écosystèmes aquatiques. Par rapport à la qualité de l'eau, c'est vrai qu'on a des milieux beaucoup moins productifs, du coup. Les nitrates sont très abondants. Mais en plus, on me dit, non, mais monsieur Boineau, vous faites erreur. La Loire a un bon état écologique, il n'y a plus de problème d'eutrophisation. Pourquoi ? Parce que les critères pour l'Europe, pour la directive 4 sur l'eau, pour mesurer l'eutrophisation des cours d'eau, il y a deux critères. C'est la chlorophylla dans le phytoplancton. Bah, plus de chlorophylla, puisqu'il n'y a plus de phytoplancton, puisque simplement, on ne peut plus se développer. C'est-à-dire qu'il y a un intrus qui cache le critère. Qui a cassé le critère. Ou l'azote nitrate dissout dans l'eau. Bah, il ne peut pas non plus, puisque comme la lumière arrive sur le fond qui fait chaud, les algues vertes elles captent tout le... Donc l'azote, les nitrates, ils circulent de manière cachée dans la neige verte qui passe dans la Loire. Alors, en mer, depuis les marées vertes en Bretagne, les critères, ce qu'on appelle les macro-algues, les algues, se développent, est reconnu comme un nouveau critère dont on en mesure la production pour mesurer la dégradation de l'eau par l'eutrophisation. Donc ça, c'est maintenant acquis pour les bandes côtières et les estuaires, mais pas pour l'eau douce. On m'a dit, mais monsieur, vous fabulez, etc. Voilà. Donc il a fallu que je fasse remonter la problématique au Comité national de l'eau, dans lequel je siège. Hein, c'est le Comité national qui vit sous les grands problèmes de gestion de l'eau au niveau national, en demandant à la ministre de faire remonter la question à Bruxelles. On en est là. Pour l'instant, il faut que je réussisse à faire écrire une ministre de l'écologie à la Commission européenne pour lui demander d'intégrer un critère macro-algues verte dans les critères de mesure de l'eutrophisation des cours d'eau. Parce que pour l'instant, mon problème n'existe pas. Enfin, mon problème. Le problème rencontré par Loire. Donc une négation juridique d'un problème réel.
Le thermomètre fonctionne plus, donc il n'y a plus de problème.
Ah bah il y a plein de gens que ça arrange bien que le thermomètre ne soit pas... Alors, autre critique, c'est, oui, vous nous rajoutez à chaque fois des critères, ce qui fait qu'on n'arrive pas à gagner de pourcentage de masse d'eau en bon état écologique. C'est un scandale, vous changez les critères, vous en rajoutez. Bah oui, au fur et à mesure que la science évolue, effectivement, les pesticides, on a rajouté plein de molécules que l'homme a créées parce qu'il fallait. Voilà, faut bien. Et à ça, il y a beaucoup d'acteurs, que ce soit des acteurs économiques ou des élus, qui sont archi debout pour qu'on ajoute des critères parce que... Alors c'est vrai que c'est un peu décourageant. Il y a des efforts qui sont faits, et puis au bout des efforts, la situation se dégrade. Mais de toute façon, c'est vrai qu'elle se dégrade. Alors, pour certains paramètres, elle s'est bien améliorée. Je l'ai dit, pour les pollutions d'origine urbaine et industrielle, ça, en gros, on a gagné à peu près la bataille. Et pour d'autres paramètres, l'agriculture ou ceux liés au dérèglement climatique, là, tout reste à faire.
Qualité de l'eau, toujours, on a évoqué donc les phosphates apparemment qu'on trouvait beaucoup dans les lessives en fait. Hein, la question a été à peu près réglée. Nitrates, pesticides et les hormones.
Il n'y a pas trop de mesures là-dessus sur les hormones. Hein, elles sont, on est au stade expérimental. Par contre, les pesticides, je suis un peu inquiet puisque actuellement je suis président de la commission régionale Loire-Moyenne du comité de bassin. Il y a quatre grands territoires, la Bretagne, c'est Maine, Pays de la Loire, à peu près la région centre, c'est la Loire moyenne, en fait la Loire du bec d'Allier au bec de Vienne, avec les bassins du Cher et de l'Indre. Il y a une commission Loire-Vienne, voilà, et une commission Loire-Amont-Allier. Moi, je suis présent pour la commission Loire moyenne, donc avec les bassins du Cher et de l'Indre. Eh ben, dans les données qu'on m'a fournies, dans nos cours d'eau, on trouve quand même 209 molécules différentes de pesticides, dont, de mémoire, à peu près 30% des points de prélèvement où il y a au moins un cocktail de 30 molécules. C'est effrayant.
Ça, c'est une station d'épuration, elle le filtre ?
Non, alors, les pesticides, c'est pollution diffuse. Les pesticides, c'est ce qui ruisselle des champs cultivés de manière industrielle.
Au moment où ça se jette dans la rivière et ça arrive au robinet, il y a bien la station d'épuration entre les deux.
Non, alors, ce qui est diffusé dans les champs, en termes de traitement, que ce soit nitrate ou autres engrais et des pesticides, les produits phytosanitaires pour eux, qui, moi, sont mes biocides, hein, c'est des produits pour tuer la vie, donc résultat, ça tue la vie dans les rivières, hein, voilà. Et les autres formes de vie que celles souhaitées dans les champs, d'ailleurs, la preuve, les chutes d'abondance des oiseaux, etc., des insectes. Le problème, c'est que ça passe par le sol ou les nappes phréatiques, où ça ruisselle, et ça va directement dans les cours d'eau. Donc après, dans les cours d'eau, ben, ces biocides, ils continuent à jouer leur rôle de tueur de vie. Il y a des études écotoxicologiques pour évaluer chaque molécule, mais un mélange aléatoire de 30 molécules, jamais personne n'a fait d'études écotoxicologiques pour savoir ce que ça avait procuré comme dégâts sur la vie.
Ce qu'on appelle l'effet cocktail.
L'effet cocktail. Un méga cocktail de 30 molécules, c'est même coton. Et ça, ça diminue pas. Le taux de nitrate dans les cours d'eau, par exemple dans le Cher, il aura fallu qu'on baisse les flux de nitrate dans le Cher de 30 à 40% en fin 2015. On va arriver fin 2022, on n'a toujours pas baissé. Parce que les formes d'agriculture conventionnelle, industrielle, chimique, irrigante, ont pour l'instant pas compris qu'elles devaient se réformer, qu'elles devraient passer à l'agroécologie. Ça, c'est urgentissime, quoi. Et donc, résultat, on a toujours ces flux de nitrates et de saloperies, hein, les pesticides. Pour moi, c'est des saloperies qui restent dans le cours d'eau. Je suis censé pêcher des poissons pour les faire consommer. Bon, ben voilà, après, certaines ONG commencent à nous attaquer en disant qu'on empoisonne les consommateurs. Mais ils sont de cible, c'est pas... Nous pêcheurs, on est victimes de ces pollutions, on n'en est pas à l'origine. Ce sont d'autres acteurs qui sont à l'origine de ces industries chimiques et puis les gens qui utilisent ces produits chimiques, de manière, à mon avis, inconsidérée. Enfin, de leur point de vue, c'est considéré parce que ça leur permet d'avoir les cultures de ce qu'ils veulent comme il faut, mais sur les conséquences secondaires après des rejets ou de leurs molécules dans le milieu naturel, ça... Plus personne n'est concerné.
Comment ça pourrait changer ?
Comment ça pourrait... Ben, je ne suis pas devin. Peut-être que la pression des citoyens conscients de cette nécessité de changer de forme de production, de cette urgente nécessité de l'agroécologie, c'est à mon avis le seul moyen de faire basculer les choses avant qu'il soit trop tard.
Philippe, au moment où on se parle, là, ça fait bientôt 30 ans que tu es pêcheur professionnel en Loire. Au niveau de ce que tu prends dans tes filets, quelle évolution t'as vue au niveau quantité, variété, etc., en quasiment 3 décennies de pratique?
C'est clair que ça n'a plus rien à voir. L'écosystème Loire a totalement changé. Les touristes qui passent ou les riverains qui n'ont pas de conscience naturaliste ne se rendent pas compte. Ils voient un paysage immuable, de jolies couleurs avec des couchers de soleil, des paysages d'eau et de verdure et de sable blond, là où il en reste, parce que le sable blond, souvent, il est recouvert maintenant d'un tapis de graminées exotiques envahissantes aussi, ou de jussies. Mais effectivement, quand on est naturaliste, on se rend compte que le paysage en tant que tel et la composition de ce paysage n'est quasiment plus du tout la même que celle d'il y a 30 ans. Et des endroits, il faut chercher pour trouver des espèces indigènes. La plupart des espèces qu'on a sur les graves de Loire ou en bordure, souvent sont des espèces exotiques, envahissantes. Angères d'Amérique, d'Afrique, de l'Amazonie, d'Australie, j'en passe. Et moi, du coup, ça se traduit par un bouleversement de la composition de l'écosystème aussi pour les poissons. Fait que, il y a 30 ans, on pêchait le saumon jusqu'en 93, les aloses, les lamproies, les anguilles, c'était une grande partie de l'activité. Les mulets, et puis après, l'été, il y avait la friture de Loire, etc. Et puis un petit peu de poisson blanc, du brochet, du cendre. Maintenant, c'est du silure et du silure. Un peu de barbeau, un tout petit peu d'anguille, un tout petit peu d'alose. Allez, 1 kg de cendre pour 1000 kg de silure. 2 kg de brochet pour 1000 kg de silure. Ce sont les proportions de ce qu'il y a dans mes pêches et donc dans l'écosystème. Donc, les gens qui rêvent au paradis perdu, malheureusement, il faut qu'ils en fassent leur deuil. Le paradis, il est perdu. Parce qu'on a tellement changé les conditions de base de la vie, c'est-à-dire les flux d'énergie qui arrivent dans l'eau, et les flux de matière, c'est-à-dire les nitrates qui passent, ces conditions physiques de base, qui font que ce sont des conditions qui favorisent les espèces tropicales, et nos espèces tempérées océaniques, elles sont en perdition dans ces conditions. Donc en fait, faut se mettre dans l'idée qu'on a une loi en voie de tropicalisation avancée. Donc ceux qui rêvent à revoir 100 000 saumons en Loire... ou du brochet comme il y avait il y a du temps de Maurice Genevoix, où je crains qu'il se fasse des grandes illusions.
Il est comestible ce silure ?
Oui, il y a des analyses... qui ont été faites parce qu'une grosse étude sur la pollution par les polychlorobiphényles, les PCB. Donc tous nos poissons ont été screenés. Et... Bon, c'est bon. En plus, la Loire, on a la chance d'avoir, finalement, d'avoir été un des fleuves les moins industrialisés de France. À part les zones de Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, en fait, où il y a eu des pollutions ponctuelles, le reste du bassin était quand même assez épargné par ces pollutions chimiques massives qui ont gravement affecté le Rhône, le Rhin ou la Seine. Donc normalement, nos poissons sont consommables.
Toi, t'en pêches du silure ?
Ah bah oui, c'est devenu la principale espèce pêchée, puisque en biomasse, c'est devenu la principale espèce en Loire-Moyenne. Et c'est un problème, puisque c'est un super prédateur, qui est au-dessus de ce qu'on appelle la taille refuge de nos espèces. Chez nous, le super prédateur indigène dans les poissons, c'est le brochet. Quand vous avez un brochet qui fait 1 mètre, 1 mètre 20, allez, 15-20 kilos, c'est maximum. Et donc, les espèces indigènes patrimoniales à grande valeur écologique, mais aussi économique d'autrefois... Le saumon, la lose, la lamproie, les sturgeons, pour mémoire, qui a disparu depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils ont une stratégie de vie particulière, c'est-à-dire qu'ils grandissent en mer et ils remontent dans nos rivières d'intérieur où ils se reproduisent, les ruisseaux du Massif central, où là, les capacités de croissance, elles sont limitées. Donc les jeunes poissons, ils vont dévaler vers la mer, où là, les ressources alimentaires, elles sont limitées à leur échelle. Quoique ça devient plus compliqué, justement, à cause du règlement climatique. Le saumon est obligé de faire entre 200-400 km de plus vers le pôle Nord pour trouver les proies dont il se nourrit. Ça lui rallonge la route à l'aller et au retour, bref. Et donc, autrefois, c'est pour ça que les hommes préhistoriques vivaient aussi au bord des cours d'eau et ils pêchaient beaucoup de saumon, d'anguilles, etc. Il y a la grotte du saumon aux Zizi de Taillac, là au bord de la Vézère, où il y a un bas-relief, un saumon sculpté grandeur nature, qui est la preuve que les hommes préhistoriques ils se nourrissaient... En fait, on avait de la protéine, des lipides de poissons de mer de très grande, très riches qui remontaient à l'intérieur du continent, jusque dans nos montagnes. Donc c'est un apport de protéines et de lipides très important pour la survie des humains pendant longtemps. En fait, jusqu'au début du XXe siècle, c'était des ressources très importantes. Jusqu'à ce qu'on commence à construire les premiers barrages hydroélectriques qui empêchent l'accès de ces poissons à leur zone de production, ce qui fait que le saumon s'est éteint de la plupart des cours d'eau, les sturgeons aussi, et les aloses, la lamproie et l'anguille suivent la même route, malheureusement. Donc finalement, retrouver des conditions de vie décentes pour que ces espèces puissent, en premier temps, survivre, en deuxième temps, se redévelopper comme elles l'étaient autrefois, pour rendre les services aux hommes qu'elles rendaient autrefois, ça faut qu'immédiatement on arrête de mettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, quoi. Hein ? Et qu'on enlève plein de barrages pour leur faciliter l'accès entre l'océan et les zones où doivent se reproduire, ou grandir pour l'anguille. Parce que si on le fait pas, j'ai expliqué pour le saumon ce qui se passe, et c'est là où nous, humains, on a beaucoup... Enfin, certains représentants des humains ont du mal, ne veulent pas l'admettre. S'ils acceptent de sauver ces espèces, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils fassent des sacrifices en disant, effectivement, c'est tel et tel barrage, il faut les enlever. Sinon, on sauvera pas ces espèces. Les passes à poissons, on en a parlé. pour la Lauze, la meilleure passe à poisson, la technologie la plus performante que vous pouvez mettre en place, vous aurez 70% des alloses qui arrivent au petit barrage qui réussira à la franchir. Faites le calcul, 70% au bout de 5 parages, il n'y a plus rien. Donc il est évident qu'il y a des choix à faire. Si sur la rivière où on a décidé qu'il fallait sauver la Lauze, il y a 10 barrages, on peut accepter d'en conserver 5 maximum, les autres, il faut les enlever, il faut les raser. Alors il y a plein d'endroits où on dit non, c'est pas possible. Ne maintenez pas le fait que vous souhaitez conserver la Lauze. Dites que vous sacrifiez la Lauze. Et il a franchi de dire que cette forme de biodiversité ne vous intéresse plus, que l'espèce peut disparaître. Et ça, c'est trop en demander, ça, cette forme de franchise.
Philippe, je ne sais pas si ce qu'on va aborder maintenant relève de l'utopie, mais allez, souhaitons une prise de conscience généralisée. Hein, à 7 milliards d'individus, on va tous prendre conscience qu'on a de gros problèmes qu'il faudrait qu'on règle et qu'il faudrait qu'on devienne raisonnable. Quelles seraient des pistes pour s'en sortir ? On fait comment ? On a déjà abordé dans un premier épisode donc le comité Bassin-Versant et le Parlement de Loire. Bon, ça, ce sont deux premières pistes, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Le consommateur aussi a un rôle à jouer.
Alors, pour ce faire, il y a le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui est prescrit donc par le comité de bassin, enfin par la préfète de région centre, qui est préfète coordinatrice pour Bassin en Bretagne, et qui promulgue tout un tas d'actions pour restaurer une meilleure qualité et de gestion de l'eau des milieux aquatiques. Il y a 7 chapitres. Il y a la réduction des pollutions, il y a la gestion quantitative, il y a l'amélioration du littoral, enfin, il y a plein d'actions. Et à côté, il y a un programme de mesures. Et il y a des fonds, ce qui est récolté sur les factures d'eau en termes de redevances, sert justement à financer tout ça. Et là, le 11e programme, c'est pas loin de 2 milliards d'euros. Ça fait un peu plus de 300 millions d'euros par an. Mis à disposition des collectivités, des associations, pour mener à bien les travaux de restauration, de la qualité et une meilleure gestion de la quantité d'eau. Donc ça, en fait, il faut que les citoyens, via les associations ou les élus, s'en saisissent pour déposer des dossiers auprès de l'agence de l'eau pour demander à financer la restauration des haies et des talus le long des cours d'eau, le reméandrage des cours d'eau, la renaturation des cours d'eau qui ont été trop abîmés autrefois, l'effacement des barrages obsolètes qui n'ont plus d'intérêt, tout un panel d'actions qui seront favorables à une restauration de la qualité et d'une meilleure gestion de la quantité d'eau pour avoir des débits plus réguliers, moins d'à-coups, moins d'à-sec, etc. Donc tout ça, c'est possible. Mais il faut s'en saisir de ces outils. Il y a ça, et il y a aussi la mise en œuvre donc des assises de l'eau, enfin de ce qui a été conclu aux assises de l'eau, c'est-à-dire se fonder sur les solutions basées sur la nature pour améliorer le cycle de l'eau sur le plan quantitatif, c'est-à-dire restaurer un peu partout des réseaux de talus de haies, recréer des zones humides, renaturer les cours d'eau, etc. etc. Il est tout aussi promulgué le fait que quand des acteurs veulent absolument construire des réservoirs, des bassines hein, ou des retenues de substitution, la retenue n'est qu'une des solutions parmi d'autres. C'est pas la solution avant tout. Moi, depuis que je suis tout petit, chaque fois qu'il y a eu un problème d'eau, l'élu doit dire « Bon, où est-ce que je dois mettre le barrage ?» Avant toute autre forme de réflexion. Non. À partir du moment où il commence à avoir des problèmes d'eau, on doit déjà faire un bilan. Il faut faire une étude, en gros, globale, sur le petit bassin où vous êtes, ou un peu plus grand, sur l'hydrologie, comment se passe le cycle d'eau l'eau à cette échelle-là. Milieu, dans quel état sont les milieux aquatiques, et quels sont leurs besoins. Usage, quels sont les usages de l'eau, quels sont les prélèvements, où, comment, combien, à quel moment du cycle de l'eau. Et climat, quelles sont les évolutions climatiques et comment tout ça va évoluer en fonction. Donc ça fait HMUC, étude HMUC. Et à partir de ce bilan complet, on regarde là où on peut faire des économies d'eau, un maximum d'économies, changer des pratiques pour économiser l'eau, pour devenir parcimonieux sur l'eau. Et en bout de course, une fois qu'on a épuisé toutes ces solutions, s'il n'y a pas d'autre moyen que pour assurer la base, on peut éventuellement faire un réservoir. Mais ça n'est que la solution ultime après l'examen de toutes les possibilités qu'ont les humains d'être beaucoup plus économes et parcimonieux sur l'usage de l'eau. Avec toujours les milieux aquatiques, qui sont pas rétrogradés en fin de liste. Puisqu'il faut toujours rappeler que ce sont des milieux aquatiques en bonne santé écologique qui vont nous garantir de nous fournir de l'eau le potabilisable plus facilement, à moindre coût et avec une somme de sécurité.
Que nous, usagers de l'eau du robinet, on a un rôle, est-ce qu'il est important ce rôle à jouer? Voilà, quand on dit laisse pas couler l'eau du robinet quand tu te brosses les dents, privilégie les douches au bain, éviter de passer la bagnole au Karcher, ou le mauvais arrosage du jardin, parce qu'on peut avoir tendance à mal arroser, parfois sans le savoir. Est-ce que ce qui se passe du côté des usagers de l'eau au robinet, ça a un impact? Ou est-ce que c'est anecdotique?
Quand on est en situation de crise comme en 2022, non, c'est pas anecdotique. Hein. Ça peut nous permettre de passer les mauvais jours et d'éviter d'avoir la coupure d'eau totale au robinet. Il y a quand même des communes qui...
J'entendais des gens pendant la canicule 2022, alors, je comprends, hein. Il faisait tellement chaud que je prenais 3 douches par jour.
C'est ça. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit que la consommation domestique, elle augmente en fonction de la température. Donc on n'est pas encore adapté au climat désertique et au climat tropical sec. Et il va falloir qu'on s'y mette pourtant. Parce que ça n'est plus tenable que d'augmenter notre consommation d'eau, nos prélèvements, et notre consommation éventuellement nette, quand les crises sont celles qu'on vient de vivre, qu'on vit encore. Pas sorti de l'auberge, comme on dit. Hein. Et d'ailleurs, qu'ils peuvent tout l'hiver, pas avoir encore de problèmes plus graves en 2023. Mais l'homme a une mémoire de poisson rouge, hein. Je crois que c'est pire que le poisson rouge, d'ailleurs. Donc ils vont pas se rappeler des nos concitoyens des soucis qu'on a eu en 2022 et malheureusement c'est pas 3 jours de pluie qui vont nous parce qu'il y a eu un déficit de recharge phréatique là sur le bassin de la Loire d'à peu près 70% au cours de la saison hydrologique dernière. En fait, une saison hydrologique ça va de fin septembre d'une année à fin septembre de l'année d'après. C'est-à-dire fin septembre normalement c'est l'automne, il commence à pleuvoir. Et en plus, la végétation n'a moins besoin de boire, puisque les feuilles, normalement, c'est une végétation à feuilles caduques essentiellement. Donc il n'y a plus d'évaporation, de transpiration. Les arbres et les végétaux n'ont plus besoin de grandir. Donc c'est là où on commence à avoir des pluies efficaces pour recharger l'infratique. C'est-à-dire de la pluie qui va pénétrer dans le sol et descendre dans le sous-sol vers l'infratique pour recharger l'infratique. Donc après, on a des nymphratiques qui ont une réactivité assez différenciée. Il y a des nacres par action rapide, c'est-à-dire que les pluies vont immédiatement, parce que le sol est assez perméable, se recharger. Et puis il y a des nappes à grande inertie, c'est-à-dire des nappes qui vont mettre 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, avant de se recharger. Il faut gérer correctement, il faut toutes les gérer correctement, il ne faut pas prélever plus qu'on devrait se faire. Donc là, ça se recharge hiver, et à peu près au 15 mars, la végétation démarre. Et là, les pluies sont moins efficaces. Et pendant tout le printemps, la plupart des pluies sont absorbées par la végétation, pour l'évapotranspiration, pour la croissance. Donc les pluies efficaces, c'est en gros octobre à mars. Et donc, comme on savait qu'entre octobre 2021 et mars 2022, il y avait plu beaucoup moins et que les nappes phréatiques s'étaient pas rechargées, on aurait dû prévoir, enfin, on est quelques-uns à l'avoir prévu ce qui s'est passé cet été. C'est-à-dire s'il n'y avait pas tout d'un coup des pluies diluviennes qui arrivaient, on allait vers la pénurie sévère. C'est ce qui s'est passé. Alors normalement, il y a les moyens d'anticiper, puisque avec le BRGM qui suit le taux de remplissage des nappes, de Météo France qui fournit des données sur la pluviométrie, voire des prévisions saisonnières à 3 mois qui sont encore d'incertitude, mais c'est de plus en plus fiable. Avec le réseau de suivi des débits des cours d'eau par les stations de jaugeage, gérées par les DRAL, les agences de l'eau, Les mesures pour les ruisseaux de ce qui passe comme eau par les agents de l'Office national de la biodiversité, en fait, on pouvait prévoir la catastrophe qu'on a vécue. Alors, on l'a partiellement prévue, mais après, ce sont les règles juridiques qui nous empêchent de déclencher à temps, pas des restrictions, mais les économies d'eau. Positiver, hein. On aurait dû être économe en eau depuis le mois de mars. Mais pour que les préfets puissent déclencher différents niveaux C'est-à-dire un niveau de vigilance, après un niveau d'alerte, alerte renforcée, niveau de crise, où là, ben, enfin, après, il n'y a plus que pour l'eau potable. Le problème, c'est que ces seuils, ces différents seuils d'alerte, sont déclenchés par le débit d'étiage, une valeur de débit. Or, un cours d'eau, le débit, ça suit une courbe en cloche, une sinusoïde. Normalement, le débit augmente sous nos climats, hein, bien sûr. À l'automne, ça a un maximum fin l'hiver, début du printemps, ça diminue, ça atteint le minimum débit d'étiage, on disait. Maintenant, on va changer par basse eau, parce que l'étiage peut se produire en hiver, on est en train de s'apercevoir, en juillet, août, septembre, et puis après, ça remonte, voilà. Le problème, c'est que si on veut respecter les milieux aquatiques et les êtres vivants qui en ont besoin, le saumon pour faire sa migration, on devrait avoir ce que moi j'ai proposé, qui n'a pas été retenu, hein, un débit naturel reconstitué pour chaque mois qui serve de débit de déclencheur pour les seuils de vigilance, alerte, alerte foncée, crise. Si au mois de mars, on a un débit qui est 10 ou 15% inférieur au débit moyen naturel du mois de mars, on devrait déjà déclencher les économies. Parce que s'il faut qu'on attende d'avoir le débit naturel qu'on a au mois de juillet-août, bah on continue à prélever, sans compter sur une ressource qui sera plus disponible après. Mais moi, je vois très bien comment on pourrait améliorer le système. Le problème, c'est que vous imaginez, il y a une planète à persuader, quoi. Ça va pas être facile.
Et un président de la République qui énonçait le projet de rajouter des mini-centrales nucléaires, comme c'est des mini, c'est pas trop grave, le long de... Bon, voilà. Et donc, tu nous expliquais hein, que c'est des rejets d'eau chaude, donc du manque d'oxygène pour des poissons qui meurent, parce qu'on s'est beaucoup étonné que les poissons meurent.
Mais bon, non, mais déjà, basiquement, mettre en œuvre tout le panel de solutions qu'on a imaginé collectivement pour une meilleure gestion de l'eau en quantité, respectant la vie... Et restaurer une meilleure qualité, ce serait déjà pas mal. Il y a déjà fort à faire. Donc après, il faut que les citoyens se saisissent de tout ça et que les élus locaux s'en saisissent un peu plus que ce qu'ils le font. Certains le font bien, mais pas tous. Parce que beaucoup sont sous pression de collectifs d'acteurs ou sont parties prenantes. Et donc, on fait des choix politiques du coup pour privilégier tel type de solution plutôt que tel autre. Et pour certains, les solutions fondées pour la nature apparaissent comme un retour en arrière. Alors que, non, ce sont des. On est allé un peu dans l'excès en artificialisant notre grand cycle de l'eau. On est allé trop loin avec les dégâts qu'on constate pour la nature, mais aussi pour les humains. Hein. Les inondations trop brutales, trop violentes, trop fréquentes et les manques d'eau trop prolongés. Si on est malin, on peut rectifier tout ça, pas en faisant un retour en arrière, mais en se basant sur des solutions intelligentes, conciliant cette meilleure gestion du cycle avec les activités humaines qui en dépendent.
Sur une image, la campagne présidentielle de 74, moi j'avais 5 ans, mais moi je me souviens pas. Mais mon père me souvient très bien, par contre, de René Dumont, donc écologiste à l'époque, qui s'était présenté en tant que candidat. Je pense qu'il estimait pas du tout envisageable de se faire élire, mais il s'était servi de la campagne présidentielle, je pense, pour faire passer un message.
Et vous savez ce qui va se passer ? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera.
Et il y a cette image de René Dumont dans son pull rouge, avec un verre d'eau à la main, disant l'enjeu du futur, l'enjeu vital, il est là. Et mon père semble se souvenir qu'à l'époque, la plupart des gens s'étaient foutus de sa gueule.
Oui, bien sûr, parce que c'était les fameuses Trente Glorieuses où l'ingénieur forcément avait raison, c'était l'homme doit dominer la nature. C'était le début des projets de grands barrages au bassin de Loire, avec la bataille de Loire Vivante contre les projets de barrages, d'endiguement, d'artificialisation de la Loire. Hein. Le président de l'établissement public de la Loire et ses affluents de l'époque, Jean Royer, son rêve, c'était que les rivières coulent comme l'homme veut qu'elles coulent, que la Loire soit au niveau et le Cher. Pour ça que le Cher a été recalibré à Tours. Il lui a donné une dimension qui n'est pas naturelle et que maintenant on constate un ensablement massif parce que simplement le lit est beaucoup trop large par rapport à la capacité de transport naturel de ce cours d'eau, quoi. Voilà. Donc l'homme croit toujours qu'il peut être au-dessus de la nature et la dominer alors qu'il n'en est qu'un élément qu'il faut composer avec elle. Composer avec la nature. Ça a été un des apprentissages de Loire Vivante. C'est-à-dire que, lutter contre les crues, non, il faut composer avec, parce qu'il y a toujours une crue plus importante que la précédente. En indiguant, en barragisant, on crée une vision de sécurité, et puis un jour, il y a un phénomène hydrologique encore plus fort, qui fait que toutes les protections elles sont rompues ou submergées, et donc on crée du coup des dommages collatéraux pour les hommes ou leurs activités, ou leurs biens, encore plus considérables. Donc il faut éviter de s'installer où l'eau va passer peut-être un jour, même si c'est loin dans la mémoire, hein, si c'est pas produit sur le bassin de la Loire depuis 1856-66, les crues de retour qu'on disait centenales, mais il peut y avoir des crues de retour millénales, c'est pas impossible. Auquel cas, vaut mieux être prévenu et vaut mieux éviter de faire des bêtises en urbanisant des zones qui seront submersibles un jour. Et donc, c'est Loire Vivante qui a créé ce concept, qui a innové en disant composer avec l'eau, composer avec les crues, ménager la nature plutôt que l'aménager. Ça a permis, du coup, cette conception avancée par Loire Vivante de... C'est une rupture entre les siècles des aménageurs, en gros du 17e à presque la fin du 20e. On bétonne, on barragise, on rectifie, on contrôle, on asservit la nature et les cours d'eau à ce que nous, les humains, on veut qu'on en fasse. Avec une nouvelle conception de ménagement, en fait. Ménager les fleuves pour qu'ils continuent à nous rendre les services qu'ils nous rendent. Parce qu'un fleuve canalisé, etc., il va avoir une moins bonne qualité, des risques pour l'eau potable, bref. Donc on en revient toujours aux mêmes choses, respecter la nature. Si on veut qu'elle continue à nous rendre des services et nous apporter des biens qui nous sont indispensables, nous humains. Sachant que pour que ça se fasse, il faut qu'on respecte les besoins fondamentaux des autres formes de vie qui ont besoin de ces eaux. Et on boucle la boucle avec le projet de Parlement de Loire.
Parlement de Loire, projet visant à doter la Loire d'une personnalité morale, et pourquoi pas juridique. Des êtres humains qui représenteraient des milieux naturels, pourquoi pas dans des tribunaux. Piste possible pour prendre conscience que sans ce qu'on appelle la nature, sans le respect de tout le vivant non humain qui nous permet de respirer, boire et manger, sans tout le vivant non humain, l'être humain est tout simplement destiné à disparaître. C'est sur ces considérations qu'on va se quitter, les amis. Encore merci à Philippe Boineau. Émission à réécouter sur notre site, polemix-et-la-voix-off.com. Avant les prochains épisodes de cette grande série autour de l'eau, à venir très bientôt sur votre radio préférée. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Radio G. www.radio-g.fr. Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chronique, reportage.